a-t-il encore cherché? Ne connaissait-il pas les réponses désormais? Mais les deux revenants avaient l'air aussi désorientés que n'importe quels amants tourmentés interrogeant Marie et Jésus. Ces deux soldats-là, ces deux morts, ne savaient rien de rien, c'était manifeste. Guère mieux informés que n'importe quel vivant, ils cherchaient encore des réponses. « Assez de spectres, j'en ai ma dose !» dit Juan Diego à Dorothy, suffisamment fort pour que les deux ex-compagnons d'armes disparaissent aussitôt. Juan Diego et Dorothy restèrent à la cachette toute la journée du vendredi et la nuit suivante. Ils quittèrent Vigan le samedi et prirent un autre vol de nuit de Lahuag à Manille. Une fois encore, exception faite des lueurs anecdotiques d'un bateau de pêche, ils survolèrent les ténèbres de la baie de Manille. Chapitre 31. Adrénaline. Encore une arrivée de nuit, encore un hôtel, pensait Juan Diego. Il connaissait le hall de réception de la Scott à Makati City, puisque c'était là que Myriam lui avait conseillé de descendre à son retour à Manille. Étrange de prendre une chambre avec Dorothy là où il avait imaginé l'entrée théâtrale de Myriam. Il se souvenait de la distance assez longue entre la réception et les ascenseurs. « Je suis un peu surprise que ma mère ne soit pas... » commença Dorothy. Elle regardait tout autour d'elle quand Myriam surgit comme par enchantement. Juan Diego ne fut pas étonné de voir que les agents de sécurité de l'hôtel la suivaient des yeux, des ascenseurs à la réception. « Toi ici, maman !» lança Dorothy, laconique. Myriam l'ignora et s'adressa directement à Juan Diego. « Mon pauvre ami, j'imagine que tu en as plein le dos des fantômes de Dorothy. Ces jeunes gens avec la peur au ventre, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Tu viens réclamer ton tour, maman ? Ne sois pas vulgaire, Dorothy. Il n'y a pas que le sexe dans la vie comme tu sembles le penser. Tu veux rire ? L'heure est venue. » « Et nous sommes à Manille, Dorothy. Je sais bien qu'il est l'heure et je sais où nous sommes. Plus question de sexe, Dorothy, ça suffit. Pas pour tout le monde, peut-être. » Myriam, une fois de plus, l'ignora superbement. « Chérie, tu as l'air fatiguée, ça me chagrine de te voir dans cet état, » dit-elle à Juan Diego. Celui-ci regarda Dorothy s'éloigner. Elle avait une allure vulgaire mais irrésistible. Au bas des ascenseurs, les agents de sécurité la regardèrent approcher, mais pas du tout comme ils avaient contemplé Myriam. « Ça va, Dorothy, bon Dieu !» souffla cette dernière quand elle s'aperçut que sa fille avait pris la mouche. Seul Juan Diego l'entendit. « Non mais franchement » lança-t-elle à sa fille, qui ne l'entendit pas car les portes de l'ascenseur venaient de se refermer. La Scott avait surclassé Juan Diego. On lui avait octroyé une suite avec cuisine, dans les derniers étages de l'hôtel. Il n'avait que faire d'une cuisine. Après l'escondrijo, qui est de plein pied et aussi déprimant que possible, j'ai pensé que tu méritais une belle chambre avec vue, lui annonça Myriam. Vue de haut et de nuit, Makati City, quartier d'affaires et centre névralgique de la finance, ressemblait à s'y méprendre à tous les ensembles de gratte-ciel du monde, des immeubles de bureaux éteints ou éclairés par-ci par-là à divers degrés d'intensité, contrastant avec les débauches de lumière des hôtels et des immeubles d'habitation. Juan Diego ne voulait pas avoir l'air insensible aux attentions de Myriam, mais ce paysage urbain était d'une étonnante banalité, sans aucun caractère local. Elle l'emmena dîner à proximité de l'hôtel, à l'Ayala Center. On aurait su dire si c'était un centre commercial aménagé dans un ancien aéroport international ou l'inverse. Il y régnait une atmosphère chic et trépidante. Ce fut sans doute le côté anonyme du restaurant ou l'ambiance voyageur de commerce de la Scott qui incita Juan Diego à confier à Myriam une histoire très personnelle, celle des malheurs du brave gringo. Après avoir décrit son incinération au Basurero, il annonna chaque couplet de « The Streets of Laredo » d'une voix monocorde et sinistre. Contrairement à l'américain, il chantait très mal. Après les jours passés auprès de Dorothy, il devait se figurer que Myriam avait une meilleure écoute que sa fille. « Ça vous fait pleurer, vous aussi ? Si votre sœur avait été tuée par un lion, avait dit Myriam aux enfants de l'Encantador. Et puis Pedro s'était endormi, comme ensorcelé, la tête contre sa poitrine. Juan Diego décida de l'étourdir de paroles et de ne pas lui en laisser placer une. Ainsi, elle ne parviendrait peut-être pas à l'envoûter lui-même. Il lui conta par le menu les circonstances dans lesquelles Lupe et lui s'étaient liés d'amitié avec l'infortuné hippie. Puis il lui avoua qu'il ignorait son nom de famille. Il était venu aux Philippines pour se rendre au cimetière et mémorial américain de Manille, alors même qu'il n'avait aucun espoir de retrouver la tombe du père du gringo parmi les 11 concessions. Pourtant, une promesse est une promesse. Je lui ai donné ma parole d'aller me recueillir à sa place sur la tombe de son père. Je crois comprendre qu'il n'est pas facile de se repérer dans ce cimetière, mais n'importe. Il faut au moins que j'aille sur les lieux. Pas demain, chérie. Demain, nous sommes dimanche, et pas n'importe lequel. Et dire qu'il avait une intention de lui clouer le bec. Comme il l'avait constaté si souvent avec Myriam et Dorothy, elles avaient toujours l'information qui lui manquait. Le lendemain, avait lieu la procession annuelle du Nazaréen noir. L'objet en question est arrivé au Mexique. Il a fait la route d'Acapulco à Manille à bord d'un galion espagnol au début du XVIIe siècle. Il me semble que ce sont des moines augustiniens qui l'ont apporté ici, expliqua Myriam. Un Nazaréen noir? Pas de race noire, c'est une statue grandeur nature du Christ en train de monter au calvaire en portant sa croix. Elle était peut-être sculptée dans un bois foncé, mais elle n'était pas vraiment noire au départ. Elle a brûlé dans un incendie. Elle a été carbonisée, tu veux dire. Elle a brûlé au moins 3 fois. La première fois dans l'incendie du galion qui la transportait, elle est arrivée carbonisée, c'est vrai, mais il y a eu 2 autres incendies plus tard à Manille. L'église, Quillapo, a été détruite par le feu d'abord au XIXe siècle, et puis dans les années 1920. Et en plus, il y a eu 2 tremblements de terre, un au XVIIe siècle et l'autre au XIXe. L'église exploite au maximum le fait que le Nazaréen noir ait survécu à 3 incendies et 2 séismes, sans oublier qu'il a aussi résisté à la libération de Manille en 1945, marquée par un des plus importants bombardements de la Seconde Guerre mondiale dans la zone pacifique, soit dit en passant. Une statue survivante? Tu parles d'un miracle? Les statues ne meurent pas, si je ne me trompe. Ce bout de bois a brûlé plusieurs fois, si bien qu'il a noirci, point barre. En plus, il s'est pris une balle assez récemment dans les années 90. Comme si le Christ n'avait pas assez souffert sur le chemin du calvaire. Le Nazaréen noir, lui, a survécu à 6 catastrophes, naturelles et moins naturelles. Tu peux me croire, Juan Diego. Demain, c'est vraiment pas le jour pour quitter l'hôtel. Manille est un bordel incroyable quand cette procession dingue a lieu. Il y a des milliers de pèlerins? Des millions? Ils sont encore très nombreux à croire que s'ils touchent le Nazaréen noir, ils seront guéris de tous leurs maux. Chaque année, il y a un tas de blessés. Les plus fanatiques, ce sont les hijos del Señor Nazareno, les fils du Seigneur Nazaréen. Tellement dévots qu'ils s'identifient à la passion, ils veulent revivre les souffrances du Christ, ces abrutis. La façon dont Myriam haussa les épaules fit frissonner Juan Diego. Va savoir ce que recherchent les vrais croyants comme eux, conclut-elle. Dans ce cas, j'irai peut-être au cimetière lundi, proposa Juan Diego. Lundi, ce sera encore le bazar. Il leur faut un jour plein pour nettoyer les rues. Avec tous ces blessés, les hôpitaux sont débordés. Vas-y plutôt mardi. Mardi après-midi. Le matin, c'est pour les forcenés. Ceux qui veulent tout faire le plus tôt possible à l'ouverture des portes. Le matin, il vaut mieux pas. D'accord. À écouter Myriam, il était aussi fatigué que s'il avait suivi la procession du Nazaréen noir, chahuté et langue pendante. Et pourtant, il doutait qu'elle lui ait dit la vérité. Le ton de sa voix était toujours aussi péremptoire, mais cette fois, ce qu'elle avait affirmé lui semblait exagéré, voire mensonger. Manille lui paraissait démesuré. Comment une procession religieuse qui se déroulait à Quillapo pouvait-elle avoir des répercussions jusqu'au quartier de Makati? Il avait bu trop de San Miguel et mangé des plats insolites. Il se sentait barbouillé, avec quelques raisons de l'être. Fallait-il incriminer les lumpias de canard pékinois? Quelle idée de mettre du canard dans des rouleaux de printemps! Encore ignorait-il que le lechon kawali était de la panse de porc frite,